Infojastre.
Bonjour, ici Yvan du Club Info. Et là, on va vous présenter tous les enregistrements du trimestre 3.
On va commencer par une chronique de cinéma présentée par moi et Mathurin.
Les instants cinéma.
Maïto.
Maman.
Sauve-moi.
Maman ! J'arrive !
Dans le cadre du partenariat avec le cinéma Le Navire, nous sommes allés voir le film d'animation japonaise Le Garçon et le Héron, le dernier film de Hayao Miyazaki. Ce film raconte l'histoire d'un garçon, Maito Maki, qui a perdu sa mère dans un incendie. Après ça, son père décide de se remarier avec Natsuko, propriétaire d'un manoir mystérieux.
Là-bas, il fait la rencontre d'un étrange héron qui va l'accompagner malgré lui. En suivant le héron, Maito va découvrir une tour condamnée dans laquelle il va essayer d'entrer, mais vite rattrapé par les servantes du manoir qui le mettent en garde. Têtu, il va y retourner pour essayer de trouver des réponses à ses questions, car il est sûr de les trouver là-bas.
Ce film nous a beaucoup plu, les personnages étaient inspirants et leurs histoires touchantes.
Le film mélange monde parallèle et histoire fantastique, mais un peu trop d'informations à rassembler. C'était un peu compliqué à suivre.
Maman !
Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre ?
Le film Les Trois Mousquetaires est tiré du livre de Alexandre Dumas et raconte l'histoire du jeune D'Artagnan, venant de Gascogne et partant pour Paris. Il y rencontre là-bas, Porthos, Aramis et Athos, qui deviendront ses trois meilleurs amis. Ce ne sera pas ses seules rencontres, il trouvera aussi à Paris d'autres personnages bien plus malfaisants tels que le cardinal de Richelieu, Milady de Winter, etc. etc. Rappelons-nous qu'en cette époque, la France est en pleine guerre civile, opposant les catholiques contre les protestants. Le roi aura donc besoin de l'aide de ses mousquetaires. Intrigue, rancune et vengeance seront également de la partie pour cette série de films qui nous tient en haleine. On attend bien sûr la sortie du troisième, qui est normalement cette année, pour terminer la trilogie.
C'était Marina qui prêtait sa voix pour l'article écrit par Gaspard.
Vous allez enchaîner sur le spectacle de l'option chorale, un spectacle tiré de la nouvelle fantastique Le Pied de Momie par Théophile Gauthier.
Dans le cadre de l'option chorale dirigée par le professeur d'éducation musicale, Monsieur Lagarde, les élèves ont participé au spectacle Le Pied de Momie. À la technique, des élèves volontaires de l'option musique se sont occupés de la lumière et du son. Aujourd'hui, on va interviewer Samir Roman, technicien, et Mathurin Marina, choriste. Sur quoi avez-vous travaillé ?
Nous avons travaillé sur le projet musical Le Pied de Momie, qui était une nouvelle et qui a été revue pour être adaptée en spectacle et aussi avec des pièces de théâtre par Monsieur Lagarde, le professeur d'éducation musicale, qui s'occupe aussi de l'option chorale et de l'option musique, qui a été aidé par André et Sandrine, qui ont supervisé le spectacle tout le long.
Que pensez-vous de la partie technique des spectacles ?
C'est quelque chose qui a été essentiel dans la réalisation du projet. Enfin, ça s'est plutôt bien passé.
Malgré quelques défauts techniques qui ont pu arriver
malgré
parfois.
Malgré quelques défauts techniques...
Que pensez-vous des chansons choisies ?
Je les ai trouvées assez pertinentes et assez intéressantes, malgré le fait que... On pouvait, en tant que spectateur, ne pas forcément comprendre les choix techniques si ça ne nous avait pas été expliqué avant. Par exemple, le fait de mettre une chanson, la chanson « J'ai perdu mon Eurydice » sur la mort d'un personnage, pour signifier qu'on entre dans le royaume des morts.
Que pensez-vous de la partie théâtre ?
Pour commencer, il faut préciser qu'on a fait 4 représentations en tout. 3 au centre Le Bourneau à Aubenas et une à Notre-Dame de Prévenchères vers Montpezat. Car on a fait le spectacle avec le collège de Montpezat dans l'église Notre-Dame de Prévenchères. Et donc j'ai trouvé la partie théâtre assez bien, que les gens choisis pour le théâtre jouaient plutôt bien, malgré le fait que à Notre-Dame de Prévenchère, l'acoustique pouvait être très bien pour les chants. Par contre, la partie théâtre, on n'entendait pas du tout ce que les gens disaient, donc c'était assez compliqué.
Qu'est-ce que la technique apporte ?
Ça apporte beaucoup de choses. Par exemple, ça apporte tout ce qui va être lumière, son et tout ça. Par exemple, si la technique est mauvaise, on va pas avoir de musique, on va pas, et les chanteurs vont être obligés de chanter a cappella, comme ça a pu arriver à certains moments. Si les lumières sont ratées, ça va casser toute l'ambiance de la scène. Par exemple, si c'est censé être une scène triste et qu'on met des lumières très joyeuses, bah ça va tout casser, quoi. Ça ne marche plus.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé que niveau technique, ce n'était pas vraiment très bien à Notre-Dame de Prévenchère, parce que on pouvait pas mettre de lumière, de projecteur, donc il y avait pas ce jeu de lumière qui était très très important.
Voilà. Et puis aussi au niveau du son, ceux de technique à Notre-Dame de Prévenchère n'étaient pas placés à un endroit où ils pouvaient entendre ce qu'ils faisaient, donc on ne savait pas si, enfin il y avait quelques problèmes, on ne savait pas si on faisait quelque chose de bien. Donc il y avait quelques petits problèmes au niveau de la technique. Mais je pense que ça rajoute beaucoup de choses à un spectacle, et c'est quand même une partie assez importante.
Pour vous, choristes, avez-vous aimé de coopérer avec d'autres collèges et écoles ?
C'est vrai que ça a pu être très important, notamment pour la répartition des rôles. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, on a fait ça avec le collège de Montpezat. Et donc, Jastre a récupéré les parties solistes, donc les gens qui chantaient tout seuls. Et Montpezat a fait le théâtre, c'était assez bien pour la répartition des rôles. Par contre, c'est vrai que ça a pu être assez dérangeant par rapport au fait que on a dû faire ça avec des enfants de l'école de Saint-Pierre qui avaient tendance à un peu en faire qu'à leur tête.
Qu'avez-vous pensé du projet ?
Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau projet, que c'était très pareil que Mathurin, c'était très intéressant comme projet. Puis en plus, ça a permis de rapprocher un peu les élèves, de faire un truc où ils pouvaient s'amuser et se défouler. Et je pense que c'était très bien réalisé aussi par Monsieur Lagarde et André et Sandrine. C'était quand même vachement bien réécrit.
Où avez-vous préféré faire ce projet entre Le Bourneau et Notre-Dame de Prévenchère ?
L'acoustique de Notre-Dame de Prévenchère pour les chants m'a beaucoup plu. D'un point de vue technique et théâtre, j'ai préféré le centre Le Bourneau qui avait des éclairages prévus.
Eh ben, moi, personnellement, j'ai préféré le faire au Bourneau parce que, du coup, j'étais à la technique et c'est vrai que dans l'église de Notre-Dame de Prévenchère, il n'y avait pas les équipements pour la lumière, il n'y avait pas un bon équipement de son, donc c'était plus difficile.
Alors, moi, personnellement, j'ai aussi préféré à Le Bourneau, bien que, en fait, justement, à Notre-Dame de Prévenchère, la sonorité, elle était incroyable, mais j'ai trouvé que la lumière ajoutait quelque chose. Et vraiment, même si l'église était vraiment un endroit magnifique, c'était majestique, j'ai préféré le faire à Le Bourneau avec les effets de lumière, j'ai préféré la façon dont la présentation était faite là-bas.
Il y avait plus d'espace.
Qu'est-ce que vous avez pensé du projet ?
C'est une très bonne idée de faire ce genre de projet parce que ça investit les élèves un peu sur quelque chose du long terme et on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu important qu'on peut faire, en quelque sorte un but. Et pas qu'on se repose sur nos lauriers en nous disant ça va, on va pas faire des efforts parce qu'on a rien d'important de toute façon. Là, ça nous permet d'avoir un but et de faire quelque chose d'intéressant. Et au moins, ça nous fait des trucs à raconter et ça nous rajoute, enfin, on va dire, de l'expérience. Même si je pense pas qu'il y a vraiment tout le monde qui va s'engager après dans une carrière musicale, mais je trouve ça, c'est bien de toute façon. Dans tous les cas, ça crée des souvenirs, ça nous donne des nouvelles connaissance.
Mais moi, j'étais pas là pendant tout le projet, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un projet qui... Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, donc c'était quelque chose de bien. C'est le spectacle, moi, ça m'a agréablement surprise, parce que c'est vrai que la répétition... voilà. Mais c'est vrai que c'était un spectacle qui était très bien, on voyait qu'il y avait beaucoup de travail, que les gens s'investissaient dedans. Il y a des intervenants qui sont venus ajouter leur pierre à l'édifice, qui ont accompagné la chorale, et je leur félicite pour le travail qu'ils ont fait.
Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.
Les interviews du Club Info du Collège Jastre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info RC. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une interview présentée par moi, Marina et Roman du Club Info et avec Yvan à la technique. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anne-Laure Gaudret, plus connue sous le nom de Madame Bleu.
Bonjour.
Bonjour. Alors tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui ?
Ben, je vais très bien. Je vais très bien. Je suis très contente d'être là. Ce matin, j'ai vu des enfants dans les écoles danser que j'ai accompagnés pendant plusieurs mois et ça m'a mise en joie.
Bah, c'est magnifique, hein, franchement. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ?
Je suis Anne-Laure Gaudret. Mon nom de scène, c'est Madame Bleu. Je suis danseuse, chorégraphe et pédagogue. J'habite en Ardèche depuis 13 ans et je travaille beaucoup sur le territoire.
Et alors, quel a été votre parcours en tant que danseuse et chorégraphe ?
Quand j'étais toute petite, j'ai demandé à maman, à ma mère, ce que c'était que ce métier où on inventait des danses. Elle m'a dit que c'était chorégraphe et je lui ai dit que je voulais faire ça plus tard. Mais entre-temps, j'ai oublié. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait mes études, j'ai fait d'autres métiers et en fait, ça m'a rattrapée. Et vers mes 27 ans, j'ai décidé de devenir danseuse. Donc c'est un peu tard pour une danseuse, en fait, de commencer à cet âge-là. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une danseuse étoile de l'Opéra de Paris qui est partie à la retraite à 42 ans. Donc c'est pour vous donner un peu la marge que l'on a est très courte. Donc j'ai commencé tardivement, j'ai fait une école entre mes 27 et 33 ans. Et je suis arrivée en Ardèche et c'est là que j'ai commencé à travailler en tant que danseuse et chorégraphe, donc il y a maintenant 13 ans.
Pour revenir sur le fait que vous avez commencé assez tard, est-ce que ça a amené des difficultés par rapport à votre profession ?
Oui et non. Oui, parce que bien sûr, techniquement, à l'école, j'ai jamais été la meilleure. Donc j'ai dû travailler plus que les autres. En même temps, ça m'a aussi apporté... j'ai toujours eu une certaine maturité dans mon travail. Mm-hmm. Et j'ai toujours été contente de tout ce qui pouvait m'arriver parce que je n'avais pas forcément des ambitions de travailler à l'international ou d'être très célèbre. Et donc, j'ai toujours été heureuse de là où ma carrière m'a emmenée. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime faire danser les gens qui ne sont pas danseurs. Et j'aime travailler avec eux et parce que je considère que tout le monde est un danseur en devenir.
Et pourquoi avoir choisi un nom d'artiste et pourquoi Madame Bleu ?
C'est une bonne question ça. Bah, déjà, j'aime pas mon nom de famille. Donc, fallait vraiment que je choisisse autre chose pour me faire... connaître, et puis j'aime bien l'idée d'être un personnage public et que ce que je suis dans l'intimité, c'est quelque chose qui m'appartient un peu plus. Mmh. Voilà. J'avais pas envie de créer une compagnie pour plein de raisons qui seraient longues à expliquer, mais par contre, j'avais envie de dire ben voilà, moi je suis une artiste et j'ai un nom d'artiste pour ça. Pourquoi Madame Bleu ? Parce que c'est tout simplement ma couleur préférée. Il n'y a pas de, y a pas de mystère là-dessous. Il y a beaucoup de choses, et puis il y a beaucoup de choses bleues qui m'entourent, notamment la couleur des yeux de mon fils. Et donc pas les miens. On voit pas ça à la radio, mais j'ai les yeux marrons. Et j'adore la chanson Les mots bleus de Christophe, mais c'est pas de votre génération.
Moi, je connais.
Aussi, d'ailleurs, pourquoi le choix de ne pas faire une compagnie ou...
Je suis pas une chef d'entreprise en fait. Monter une compagnie, c'est beaucoup de responsabilités, notamment en tant qu'employeur. C'est beaucoup de charges, beaucoup de travail. Je l'ai fait pendant 8 ans. J'ai co-dirigé une compagnie qui s'appelait Les Mobilettes. Ça m'a beaucoup plu. C'était une très belle aventure. Mais à la fin de ça, je me suis dit que j'avais pas envie de gérer une organisation, en fait. J'avais envie de travailler, de faire mon art, de rassembler des gens autour de moi pour monter des projets. Mais j'avais pas envie de gérer une compagnie. Voilà.
Alors, sinon, en revenant sur vos autres travaux, bah, on a pu voir en fait que le thème de la marche revient souvent. Pourquoi donc ?
Alors, c'est vrai que c'est mon obsession du moment depuis 2 ans. Alors, je suis une marcheuse. Je ne suis pas une grande sportive. Hein. Je danse et je marche. Et la marche m'apporte... me calme, me nourrit, me régénère. Et je m'y intéresse aussi en tant qu'anatomiste, puisque je suis professeur d'anatomie pour les danseurs. Et ça m'intéresse de savoir comment ça marche, la marche. Et dans mon enseignement, dans mes transmissions que je donne, j'utilise beaucoup la marche comme base chorégraphique à partir de laquelle on peut danser, à partir de laquelle on peut chorégraphier des danses. Et aussi, le déclencheur de tout ce projet, qui s'appelle « Danser comme je marche », ça vient d'une réflexion qu'un ami m'a donnée, m'a faite un jour. Il m'a dit « Mais Anne-Laure, c'est marrant, comme tu danses comme on marche. » Et alors, ça m'a interrogée. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien vouloir dire, quel était le lien entre la danse et la marche, entre ma danse et ma marche, ou la marche de tout le monde. Et j'ai toujours pas la réponse, mais ma création, c'est une question. C'est cette question-là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, danser comme on marche ?
Eh bien, écoutez, merci pour cette interview, Madame Bleu. C'était le Collège de Jastres qui faisait l'interview avec Yvan à la technique et Marina et Romane pour les questions.
Ben, merci à vous trois.
Merci à vous.
Merci.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
La rubrique pop.
Oh, I never had a camera in my head.
Iron Man. I am vengeance. I am the night. I am Batman.
Une rubrique qui parle de pop culture.
Pop. Pop.
Star Wars, basé sur la trilogie originale de George Lucas, a 2 extensions. La première retrace l'aventure du tout jeune Anakin Skywalker et comment ce jeune Jedi, apprenti de Obi-Wan Kenobi, sombrera dans le côté obscur à cause de Palpatine, sinistre personnage qui est en fait le redoutable Sith Dark Sidious. La deuxième retrace l'histoire de Luke Skywalker, fils d'Anakin, devenu le sinistre Dark Vador, Dark Favor en anglais, de la Résistance. Par la suite, Dark Vador reviendra du côté lumineux de la Force, mais son héritage du mal perdurera avec Kylo Ren. Le Premier Ordre renaîtra des cendres de l'Ancien Empire avec un tout nouveau seigneur, le suprême Leader Snoke. Mais Star Wars n'est pas seulement une série de films, c'est aussi des séries, comme The Mandalorian, Yvan en parle dans un de ses articles. Un article qui est donc à retrouver dans le numéro 11 de Jastres News, mais aussi dans cette émission sous forme de petite chronique.
Roman a prêté sa voix à Gaspard pour cet article sur Star Wars.
Ben, on est là pour donner notre avis sur Star Wars, notamment sur la dernière trilogie. Je vais commencer en donnant mon avis. Moi, personnellement, j'ai beaucoup moins aimé la dernière trilogie, même si elle a des points forts. Il n'y a rien de nouveau. Il y a même des choses qui sont moins bien. Bon, il y a une augmentation du budget, forcément, ça fait que c'est mieux visuellement. Mais par exemple, le méchant, c'est un peu un copier-coller de Dark Vador, on peut le dire. En moins bien, c'est pas Dark Vador. Du coup, c'est ça qui fait que c'est moins bien. Et on a un peu l'impression que c'est pompé jusqu'au fond. Et puis quand on a tout pompé, on met 3000 vaisseaux de flotte amirale qui peuvent chacun détruire une planète. Et les héros arrivent quand même à s'en sortir. Donc c'est que, voilà, ils sont vachement forts. Moi, je trouve quand même, personnellement, j'y arriverai pas.
Ton point de vue, Marina ? Bah, mon point de vue, c'est que j'ai toujours pas vu Star Wars, donc j'ai pas vraiment mon avis à poser, malheureusement.
Tant pis pour toi. Moi, mon point de vue, c'est que, un peu comme Roman, je trouve ça un peu copier-coller de la série originale, c'est un peu dommage. Bon, après, on retrouve quand même, j'aime bien l'idée, par exemple, du sabre laser d'un des méchants, qui est quand même... le design, il est bien, mais bon, après, par exemple, le Dernier Ordre, c'est un peu... C'est une flotte, on voit pas vraiment sa puissance parce qu'elle a à peine décollé, qui se font tout de suite dégommer parce que, juste...
Ouais, voilà. Puis le truc pour remplacer l'empereur, là, le grand leader Snoke,
voilà.
Il tient un film et demi, donc...
Oui, le grand leader Snoke...
Un peu ridicule, quoi.
Ouais, un peu ridicule. May I have your attention, please?
May I have your attention, please? Messieurs, bienvenue au Fight Club.
La rubrique pop.
Never had a camera in my head.
Iron Man. I am vengeance. I am the night. I am Batman.
Une rubrique qui parle de pop culture.
Pop. Pop. The Mandalorian saison 2. Avertissement. Contient des spoilers de la saison 1. La série The Mandalorian continue avec une saison 2. Le public attendait avec impatience la suite et elle est là. La série revient avec des nouvelles aventures du Mandalorian. Din Djarin, avec toujours le même acteur, Pedro Pascal. La saison 2 et saison 3 de The Mandalorian se déroulent environ 5 ans après la chute de l'Empire, dans le retour du Jedi, mais avant la montée du Premier Ordre, dans le réveil de la Force. Le Mandalorian est toujours déterminé pour protéger l'enfant, mais le Premier Ordre n'abandonne pas et continue à la poursuite. Donc, le Mandalorian et l'enfant poursuivent leur voyage, affrontant ses ennemis et rejoignant leurs alliés. Ils se feraient un chemin à travers de la galaxie dangereuse. Merci d'avoir écouté, et on se revoit pour la saison 3. The Mandalorian saison 3. Attention, comptez des spoilers sur la saison 1 et 2 de The Mandalorian. Après toutes ces aventures, on a besoin tous d'une pause. Et non, car notre cher ami Jon Favreau n'a pas terminé la série de The Mandalorian. Et nous sort une saison 3. À nouveau réunis, le Mandalorian et Grogu poursuivent leur voyage à travers une galaxie. Désormais, régis par aucune loi, notre chasseur de primes tente de réunir les survivants du peuple mandalorien dispersés dans la galaxie. La série de The Mandalorian est enfin bouclée. Mais que nenni! Car Jon Favreau revient en faisant un film avec The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka Tano, les trois séries ensemble pour en faire un film. Il n'est toujours pas sorti malheureusement. Quand il sortira, assurez-vous que je vais faire un article. Donc restez à l'écoute.
Qu'est-ce qui t'a fait aimer The Mandalorian ?
Alors, The Mandalorian, je l'ai repris à pas si peu de temps, mais l'année dernière, j'avais vu les trois saisons, mais du coup, ce qui me fait aimer, on n'a jamais vu ça dans les séries Star Wars, en voyant qu'une espèce qui devait être un Jedi, qui est avec un espèce qui est son ennemi, qui est un Mandalorien, c'est très original et j'aime bien. Et voilà, restez à l'écoute si vous voulez voir le reste. Merci!
Question sur les BL, les yaoi et les yuri, et les ships.
Qu'est-ce que c'est un BL ?
Un BL, c'est un manga qui présente une histoire romantique entre deux personnes du même sexe. Dans l'histoire, c'est calme, il n'y a pas d'action sexuelle forte, il n'y a que des actions douces. Exemple, Sasaki et Minano. Sasaki et Minano, c'est des lycéens qui vont s'apprendre à se connaître parce que Sasaki va trouver un manga.
Télévisionnisme, Sasaki et Miyano.
Et il va passer à Miyano, donc du coup ça va se prêter des mangas et tout ça. Et après ça va tomber amoureux entre les deux.
2022年1月放送開始.
Qu'est-ce que c'est un yuri ? Un yuri, c'est un manga entre qu'il y a deux filles qui s'aiment. Qu'est-ce que c'est un yaoi ? Un yaoi, c'est un manga qui a deux garçons qui s'aiment aussi. À quoi ça sert un ship ? Alors, le ship, c'est de mettre deux persos d'anime ou de film ou de roman ou de manga qu'on veut les mettre ensemble. Exemple, Bakudeku, Katsuki Izuku dans My Hero Academia.
On est de retour pour Ekensi, le garçon qui n'a rien demandé. Pour le chapitre 4, chemin faisant. Pendant la route, Ekensi et le vieil homme suivirent le chemin. Le petit homme donna une carte au jeune homme qui la déplia et se rendit compte qu'elle était énorme car elle donnait toutes les indications sur le chemin. Sur la carte, il y avait les dimensions en kilomètres. Et en lisant bien, Ekensi vit qu'il y avait 1300 kilomètres à parcourir. « Quoi ?» se dit-il. Et l'homme devant lui rit. « Mais où est mon garçon ? Avant d'arriver à Furtive City, il y a la route. Cette carte n'a été créée que 5 fois, mon garçon. Alors, ne la perds pas, » dit l'homme. Continuer, telle était leur devise sur un chemin forêt. Les villages défilaient et des structures abandonnées demeuraient vides. Et un peu plus tard, à 22h, ils se couchèrent dans les champs d'herbes sèches et s'endormirent. Au réveil, ils se trouvèrent au fond d'une grotte sombre et humide, mais retrouvèrent leur chemin après 1 heure ou 2. Encore et encore marcher faisait bien les pieds et abîmait les chaussures et la faim commençait à se ressentir. Vers 10h, Ekensi trouva une sacoche près d'un arbre effeuillé. Il pensait qu'il pourrait le prendre pour garder les aliments à l'abri. Le sac semblait être en fourrure noire et était très léger. Ensuite, à 13h45, il trouva un arbre fruitier, mais pas comme les autres, car il comportait plus de fruits que n'importe quel arbre. En plus, on y voyait des fruits du monde entier, allant de la simple pomme à la mangue ou au durian. Il prit plusieurs fruits, des milliers, mais la sacoche ne fut pas encore remplie. Il mit son bras dans le sac et il pouvait lui prendre tout le bras, même presque son corps entier s'il le voulait. Il essayait d'attraper un fruit, mais en vain. Mais quand il demanda à récupérer un fruit, il sortit en sautant et attrapa d'une main. Le vieil homme reconnut cette sacoche et écarquilla les yeux en bredouillant. C'est la sacoche de l'émaillant, une créature dotée de grands pouvoirs et d'une force abominable. Étonné, il apprécia cette nouvelle sans savoir pourquoi et mangea le fruit qu'il avait dans la main. Les jours suivants, rien d'anormal ne parut, à part encore ces structures du début. Le temps fut beau toute une semaine, mais le temps pluvieux faisait plaisir aussi. Furtive City n'était plus très loin, environ 15 km étaient encore à parcourir. La dernière nuit, ils ont dormi chez un aubergiste qui tenait une auberge, inconnue pour lui, qui était très connue dans ce monde, la Wivilla Room. Cette enseigne est connue de partout. Il y a beaucoup d'auberges qui l'ont. Puis ils dormirent dedans et repartirent le lendemain. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à l'endroit où la ville devait se situer. Mais ils ne la virent pas. C'est la fin du chapitre 4.
Et c'est aussi la fin de cette émission, la fin du trimestre, la fin de l'année. On se retrouve en septembre pour la suite de la fiction radiophonique Ekensi, le garçon qui n'a rien demandé, créée par Carwan. Certaines personnes du Club Info de Jastre nous quittent. Elles étaient en troisième, Roman et Marina vont vers de nouveaux horizons. Je vous souhaite une bonne continuation, en espérant vous revoir bientôt, derrière un micro ou ailleurs. Ce midi, pour le dernier atelier du Club Info, on a fait un petit bilan avec un photolangage. Et on a eu des super retours, des super interviews. Merci à vous pour ça, ce sera bientôt sur les ondes. Restez à l'écoute du 88.6, ce sera dans Expression Plurielle ou encore sur le site www.inforc.fr. Dans Établissement scolaire, vous retrouvez toutes les émissions du Collège de Jastre.